votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau. Que la Mauricie se lève. Au 106.9 Mauricie.
À 8h36, je suis très heureuse de la recevoir dans cette émission. Pendant les 7 derniers mois, elle a présidé cette commission. Elle a recueilli 200, en fait, ils ont recueilli 276 témoignages, a tenu 42 forums dans diverses régions, dont la nôtre, au total 225 mémoires. Régine Laurent, qui a présidé justement la commission Laurent sur la DPJ, sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse. Donc, ça s'est terminé vendredi dernier. Bonjour, Madame Laurent.
Bonjour, Madame Gaudreau.
Bonjour, Madame Laurent. Merci d'être là. Ça a été un travail, comment vous le qualifieriez, colossal, ce que vous avez fait?
Je dirais que c'était un travail essentiel.
Oui.
Essentiel, vraiment, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages. On a été vraiment débordés et je tiens à réitérer que on n'a même pas pu entendre. Il y avait encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes et de groupes qui auraient voulu témoigner en audience publique, mais à un moment donné, il a fallu qu'on mette un point final pour être capable ensuite de se retirer et faire l'analyse de cette somme d'informations, même si on a lu tous les mémoires, ils sont tous analysés, ils sont tous déposés en preuve, mais il y a beaucoup de gens. Donc, ça dit à quel point l'ensemble de la population du Québec est préoccupée et veut des changements.
Madame Laurent, je vous entendais en fin de semaine en entrevue à Radio-Canada. Vous commentiez les nombreux témoignages et mémoires et vous avez dit ceci, je me permets de vous citer, vous avez dit les commissaires ont été à même de constater que la DPJ servait de porte d'entrée au service. Vous avez dit c'est un non-sens parce qu'évidemment, vous avez comparé ça aux soins intensifs en milieu hospitalier. C'est à la porte de la DPJ que sont forcés de frapper ceux qui réclament des services pour un enfant. Et l'exemple que vous avez dit, c'est comme si des parents se présentaient aux soins intensifs avec leur enfant, mettons qu'ils souffrent d'une otite, et qu'on leur disait non, retournez en arrière, faire la file. C'est exactement ça pour vous?
Mais c'est ce qu'on a constaté, et ça nous a été dit par des jeunes adultes, par des intervenants, par des groupes communautaires, par des familles d'accueil. Le problème, c'est que quand un parent ou un enfant a besoin de services et qu'on n'est pas capable de l'avoir parce que c'est pas disponible au CLSC, parce qu'il y a un an et demi d'attente, ben il dit bon ben on va le déclarer à la DPJ, puis la DPJ va être capable de nous donner les services plus rapidement. Or, la DPJ est pas capable de donner les services plus rapidement très souvent. Alors il y a eu ce virage-là qui est très néfaste, parce que ce qu'il faut faire, c'est donner les services au moment où l'enfant et la famille en a besoin pour pas qu'ils se ramassent en DPJ. Pour les commissaires, il y a une chose qui est claire. La DPJ doit rester les soins intensifs, donc c'est le moins d'enfants possible et de familles dont il faut prendre soin pour pas qu'ils aillent en DPJ. Parce que la DPJ, c'est quoi? C'est l'État qui prend en charge un enfant. C'est très grave. Donc, donnons-leur les services avant, accompagnons les familles. Il y en aura toujours là pour à la DPJ, mais c'est pas normal. L'année dernière, on se souvient, il y avait plus de 106 000 signalements. C'est pas normal, là.
Absolument. Madame Laurent, je vous partage, puis je fais un résumé de tout ce que j'ai reçu dans les dernières semaines de pandémie, des gens qui travaillent auprès des enfants, même des enseignants-enseignantes, qui disent « Catherine, on est très inquiets pour plusieurs, parce que bon, il y a une baisse des signalements, ce qui en soi n'est pas une bonne nouvelle. On sait qu'il y a des petits à la maison là qui en vivent au quotidien de la violence physique, verbale. Et c'est ce qui fait, Madame Laurent, que vous êtes sortie un peu de votre devoir de réserve à la fin mars, parce que cette crise-là, ça, elle menace la sécurité de nos enfants. »
Oui, comme vous le dites, on est sorti de notre devoir de réserve parce que on a eu des échos qui nous disaient, et de chercheurs, d'intervenants sur le terrain, de groupes communautaires qui nous ont dit, écoutez, voyez cette inquiétude-là, comprenez cette inquiétude. Ça veut dire que les enfants qui ne sont plus à l'école, qui ne sont plus au CPE, où ces enfants-là ont des regards bienveillants, qui peuvent dire « Oups, ça va pas ce matin-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin de service? » Alors, ces enfants-là étaient vraiment absents de ces regards bienveillants. On ne sait pas ce qui se passe dans les familles, et c'est pour ça qu'on a dit ces ingrédients-là, avec ce que vivent les parents, le stress, la perte d'emploi, il y avait des ingrédients pour augmenter la maltraitance. Et c'est pour ça qu'on est sorti et qu'on a dit au gouvernement, écoutez, nous, il faut qu'on vous fasse part de notre inquiétude. Et on a dit aussi, collectivement, ouvrons les yeux. S'ils sont dans la ruelle en arrière, s'ils sont sous le trottoir, ouvrons les yeux collectivement pour prendre soin et avoir ces regards bienveillants sur nos tout-petits.
Madame Laurent, dans les témoignages, encore une fois, que j'ai reçus en entrevue, il y a quelqu'un qui me disait dans les dernières semaines, Catherine, si tu savais à quel point les enfants, les jeunes qui sont dans le giron de la DPJ ont des retards scolaires importants, ils sont très mal préparés pour la suite des choses. Et je pense que c'est un des nombreux points que vous allez aborder dans votre rapport. Mais ça, pour vous, c'est important de s'attaquer à cet aspect-là.
C'est important parce que, et puis il y a quelque chose d'inadmissible aussi, des enfants pris en charge par l'État et ces enfants-là qui sortent le moins scolarisés, c'est pas normal, qui sont en centre jeunesse ou en centre de réadaptation, on devrait s'assurer, et ça nous a été démontré en audience, alors qu'est-ce qu'on fait? En plus, on leur dit à 18 ans, t'es supposé être autonome, apte, adulte, à te prendre en main et tout. C'est pas possible, ça. Donc, il faut qu'on s'assure qu'ils aient une éducation. Par exemple, ça peut être aussi d'avoir un DEP en menuiserie, en je sais pas quoi. Donc, il faut qu'on prépare mieux les enfants et arrêter de penser aussi qu'à 18 ans, nos enfants à nous, je suis pas sûr qu'ils sont tous autonomes à 18 ans, qu'ils sont même pas passés par la DPJ. Alors, comment ça se fait? Puis on les met dehors, on les retrouve dans la rue. Non, il faut faire un accompagnement vers leur autonomie, vers leur vie adulte, en maintenant des services et aussi l'éducation.
Madame Laurent, il y a des spécialistes, des experts qui vous ont même confié que à quel point le va-et-vient entre famille biologique et famille d'accueil, là, ça peut compromettre le développement d'un jeune. Et la question, elle est beaucoup là. Il y en a plusieurs, Madame Laurent, mais à savoir, comment on tranche ça? Est-ce qu'il faut laisser un enfant avec ses parents biologiques à tout prix ou est-ce qu'on doit le placer en famille d'accueil? Ça doit, c'est déchirant, mais il faut statuer là-dessus.
Bien, je vais vous citer une intervenante qui nous a dit durant les forums, il faut au moins en parler. Elle nous a dit, il y a 30 ans, là, on n'aurait même pas parlé. Mais aujourd'hui, la société est prête à entendre cette conversation. Et ce que ça veut dire, c'est que pour des tout-petits, quand on parle de problèmes d'attachement, ils traînent ça très longtemps. On peut pas demander à un tout-petit de 2 ans, d'1 an, de 3 ans d'être ballotté. Il est dans la famille d'accueil, ça va bien, il est entouré d'amour, on donne une chance aux parents, on le retourne. 6 mois plus tard, ça va pas bien. On le retourne, même pas dans la même famille d'accueil, dans une autre famille d'accueil. On peut pas jouer avec les enfants comme des pions d'échecs. Il y a des problèmes sérieux psychologiques que développent les enfants et il faut s'y attaquer. Je n'ai pas la solution au moment où je vous parle ce matin, mais il faut le regarder, il faut avoir le courage de le regarder.
En terminant, Mme Laurent, le dépôt est toujours prévu le 30 novembre pour votre rapport?
Oui, absolument. Et c'est pour ça que depuis le début du confinement, les commissaires, on travaille en visioconférence tous les jours parce que le temps pour les enfants, le temps psychologique pour les enfants, c'est important. Donc, il faut rapidement qu'on remette notre rapport, et que le gouvernement mette en place son plan pour concrétiser nos recommandations.
Mme Laurent, merci d'avoir été là ce matin.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir à vous aussi. Au revoir. Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.